écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 14 avril 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Rosine Monezero.
Nous commençons par les titres.
L'Allemagne veut la fin de la collaboration du Mali avec les Russes. Fin de non-recevoir de Bamako.
Au Niger, 11 morts et plusieurs blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité lors de deux attaques dans l'ouest et le nord.
En Côte d'Ivoire, démission du Premier ministre Patrick Kachi et de son gouvernement. Ce sera donc en seconde partie de cette édition avec Jean-Roger Billon.
En Afrique du Sud, les pires inondations du pays font plus de 300 morts.
Le président américain Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine, notamment des équipements lourds.
Le tireur présumé du métro new-yorkais, l'Africain-américain Frank James, arrêté et inculpé d'actes terroristes.
Deux Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal.
La ministre allemande des Affaires étrangères a affirmé hier mercredi à Bamako que les Européens ne pourront pas continuer à travailler avec les forces maliennes si celles-ci collaborent toujours avec les Russes, propos qui ont suscité la désapprobation de son homologue malien. Les précisions de Mouamadou Oumfa.
Après une rencontre avec le chef de la junte malienne et devant les journalistes, Madame Annalena Baerbock a invoqué la décision annoncée lundi par l'Union européenne d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale au Mali. « Nous ne pouvons poursuivre la coopération sans démarcation avec les forces russes », a-t-elle dit. Le président russe Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine une grave guerre d'agression contraire aux droits des peuples, a-t-elle enchaîné. « Il ne faut pas faire de l'amalgame », a répondu son homologue malien Abdoulaye Diop. « Le Mali n'est pas impliqué à ce qui se passe en Ukraine. La situation du Mali est la situation du Mali et nous souhaitons que chaque partenaire respecte les choix du Mali », a-t-il insisté. Il a ajouté que le Mali souhaite travailler avec l'ensemble de ses partenaires, y compris l'Allemagne, la Russie, la Chine et les États-Unis. Le Mali n'abrite pas de société de sécurité privée comme cela est dit ici et là. Le Mali a une coopération d'État à État avec la Russie et une coopération de long terme, a indiqué le chef de la diplomatie malienne.
Au Niger, une double attaque a fait mardi 11 morts et plusieurs blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité selon les autorités. La première a eu lieu dans la région d'Agadez et a ciblé des gardes nationaux, alors que la deuxième visait les éléments du poste de police frontalier de Petel-Kolé, dans la région de Tillabéri à la frontière avec le Burkina Faso. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrahman Abdulrazak Idrissa.
À la position de la garde nationale 6 dans le Diado, près d'un site d'extraction d'or dans la région d'Agadez, quatre éléments ont perdu la vie, un autre blessé et deux véhicules ont été emportés par les assaillants, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. Le bilan de l'attaque du poste de police frontalier de Petel-Kolé dans la région de Tillabéri, lui, fait état de 7 morts et 10 blessés, dont 4 graves, tous des policiers. 6 véhicules calcinés, 3 autres emportés et plusieurs boutiques et hangars incendiés. Il y a moins d'un mois, près du même poste de police frontalier, une attaque faisait une vingtaine de morts, dont 2 policiers. Il s'agissait d'hommes armés qui ont intercepté un bus de transport voyageurs en provenance du Burkina Faso. Ils ont tué les occupants et incendié le bus. Depuis, la compagnie à laquelle appartenait le dit bus a suspendu la desserte sur ce axe. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, plus de 4800 personnes ont fui leur foyer après les attaques meurtrières de dimanche menées par des hommes armés dans 5 villages dans le centre du pays. Des responsables locaux déplorent plus de 100 morts. Selon le ministère des Affaires humanitaires, la majorité de ces déplacés sont des femmes et des enfants. ordre a été donné pour l'envoi immédiat de produits de première nécessité, dont de la nourriture, de l'eau et des couvertures pour ces déplacés.
Au Sénégal, les autorités ont limogé le directeur d'un hôpital public, Amadou Gueye Diouf, et suspendu le personnel de garde le jour où Astou Sorna, une femme enceinte, est morte après avoir vainement attendu une césarienne pendant des heures. Ce sont les premières réactions ou les premières sanctions prises après ce décès qui a suscité un tollé dans le pays.
Deux Mauritaniens ont été tués dimanche dans, selon des informations de presse, une frappe marocaine aux confins du territoire disputé du Sahara occidental. Le porte-parole du gouvernement mauritanien, Mohamed Melenine Ould Eir, a déclaré hier « L'incident a eu lieu hors de notre territoire national sans se prononcer sur ce qui s'était passé ». La presse locale faisait état, elle, de trois Mauritaniens tués.
Au Mozambique, l'insurrection djihadiste dans la province septentrionale du Cabo Delgado a été déstabilisée par les troupes régionales qui la combattent depuis leur déploiement l'année dernière. C'est ce qu'a déclaré hier à Pretoria le chef des armées sud-africaines. Le Rwanda et les pays voisins d'Afrique australe ont déployé plus de 3000 soldats dans cette région pauvre, à majorité musulmane frontalière avec la Tanzanie.
Le bilan des inondations dévastatrices en Afrique du Sud, causées par de fortes pluies sur la côte est, est monté à plus de 300 morts, selon un nouveau bilan mercredi soir. Ces pluies ont dévasté des milliers de maisons, routes et ponts à Durban, grand port africain et épicentre de la catastrophe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a donné son feu vert hier à une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine avec des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu'ici. Des détails avec Jacques Aristide.
Des véhicules blindés, de l'artillerie, des hélicoptères. Lors d'un coup de fil avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le président Biden lui a dit avoir débloqué une nouvelle tranche d'aide d'une valeur de 800 millions de dollars. Ces nouvelles livraisons américaines comprendront certains des équipements très efficaces que nous avons déjà livrés à l'Ukraine, mais aussi de nouvelles capacités, dont notamment des systèmes d'artillerie et des moyens de transport blindé, a indiqué la Maison-Blanche. Joe Biden a également donné son feu vert au transfert d'hélicoptères supplémentaires. L'objectif, selon Washington, est d'aider l'Ukraine à affronter une vaste offensive russe dans l'est du pays. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine le plus gros de l'aide militaire, qui a atteint un montant de 2,4 milliards de dollars. Le gouvernement américain avait jusqu'ici rechigné à livrer les équipements lourds à l'Ukraine afin d'éviter d'alimenter les tensions déjà très élevées entre Washington et Moscou.
Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, a été gravement endommagé par une explosion de munitions causée par un incendie, ont rapporté jeudi les agences d'État russes, citant le ministère de la Défense. Les autorités ukrainiennes avaient auparavant affirmé que le Moskva était en feu après avoir été touché par des missiles.
L'armée russe a menacé hier de frapper des centres de commandement dans la capitale ukrainienne Kiev, que Moscou a renoncé pour l'heure à prendre, accusant l'Ukraine de tirs et de sabotage sur le territoire russe.
Le procureur de la Cour pénale internationale, le Britannique Karim Khan, a qualifié hier l'Ukraine de scène de crime.
Voilà, maintenant, les autorités new-yorkaises ont arrêté hier l'auteur présumé de l'attaque perpétrée la veille dans une rame de métro de Brooklyn, a annoncé le maire de la ville, Eric Adams. Le suspect Frank James était connu des services de police après plusieurs arrestations, Jean-Roger Bion.
Le suspect a été arrêté grâce à des signalements. La police recherchait depuis plus de 24 heures Frank James, un Africain-américain de 62 ans, accusé d'avoir tiré à de nombreuses reprises dans un train dans le sud de Brooklyn à l'heure de pointe et a fait 23 blessés. Il a tiré 33 balles, une récompense de 50 000 dollars a été mise sur la table. Nous avons vraiment eu de la chance que cela n'ait pas été beaucoup plus grave, a souligné la chef de la police de New York, Kishant Sowell, résumant le soulagement des autorités. Les fusillades sont restées en hausse depuis le début de l'année, dont certaines ont marqué les esprits, comme la mort vendredi d'une adolescente de 17 ans, tuée par balle à la sortie d'un lycée dans le Bronx. La mégalopole est confrontée à une hausse de la criminalité durant la pandémie. Les homicides y sont passés de 319 en 2019 à 488 en 2021, mais bien en deçà des 2000 morts par balle dans les années 1990.
La Minute Éco,
l'Algérie dispose de réserves considérables de gaz, mais ses capacités d'exportation sont presque saturées. Plusieurs pays occidentaux, cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie, se tournent vers Alger, mais le pays ne dispose que d'une capacité très limitée pour augmenter ses exportations et ses livraisons à l'étranger. L'Algérie fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie. C'est le premier exportateur africain de gaz naturel et le septième au monde, avec des réserves de gaz naturel de près de 2,4 000 milliards de mètres cubes. La Banque africaine de développement veut parvenir à un accès universel aux services financiers à plus de 80% des Africains âgés de 15 ans et plus d'ici 2030 et assurer l'inclusion numérique de 338 millions de personnes. Pour cela, la banque encourage de construire des infrastructures financières fiables et faire évoluer le cadre légal et réglementaire. Il faut aussi encourager tous les fournisseurs des services financiers en Afrique à mettre l'accent sur le développement de produits innovants. Terminons par le déficit de financement pour les entreprises détenues par les femmes en Afrique, qui s'évalue jusqu'à 42 millions de dollars, révèle la BAD. En général, les femmes africaines représentent entre 0 et 5% des portefeuilles des banques commerciales. Parmi les principales raisons se trouve le manque d'éducation, de formation, ainsi que la méconnaissance des institutions financières des besoins et problèmes spécifiques des femmes.
Merci Nani. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Pas de match aujourd'hui dans la Basketball Africa League dont les rencontres de la conférence Nil se disputent au Caire en Égypte. Hier, Cobra Sport du Soudan du Sud a décroché sa première victoire dans la compétition en dominant BC Espoir Foukacha de la RDC 108-82. Première victoire également pour les Sud-Africains de Cape Town Tigers qui ont battu les Camerounais de FAP sur le fil 73-70. Football, les portes de l'équipe du Maroc restent ouvertes au milieu offensif de Chelsea. Hakim Ziyech, en conflit avec le sélectionneur Vahid Halilhodžić, affirme le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekdja. Personne ne peut priver un joueur marocain de jouer avec l'équipe nationale, que ce soit Ziyech, Mesraoui ou un autre, ajoute le patron de la Fédération. Hakim Ziyech, 28 ans, a annoncé début février qu'il prend sa retraite internationale suite à une brouille avec le coach Halilhodžić. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas lui reproche un manque de respect menaçant, selon lui, la cohésion du groupe. Malgré la qualification pour le Mondial 2022, Halilhodžić a été critiqué au Maroc pour ses choix tactiques et la composition de l'équipe. Au Qatar, le Maroc sera opposé à la Croatie, la Belgique et au Canada dans le groupe F. En Europe, en Ligue des Champions, plus solide à l'aller 1-0, résilient au retour hier au Metropolitano 0-0, l'Algérien Riyad Mahrez et Manchester City sont venus à bout de l'Atlético Madrid. Unique but de la double confrontation, celui de Kevin De Bruyne, à l'Etihad Stadium à l'aller aura suffi pour hisser ses mancuniens vers le carré d'as. En demi-finale, les Citizens affronteront le Real Madrid qui a éliminé mardi Chelsea. De son côté, Liverpool s'est qualifié pour les demi-finales en se contentant d'un match nul contre Benfica 3-3. Sadio Mané et ses équipiers l'avaient emporté 3-1 à l'aller. En demi-finale, les Reds retrouveront Villarreal qui a éliminé le Bayern Munich mardi. Ici, aux États-Unis, la sprinteuse Allyson Felix, athlète féminine la plus titrée de l'histoire, Jeux olympiques et mondiaux confondus, a annoncé hier qu'elle disputerait cette année sa dernière saison avant de définitivement raccrocher ses pointes à 36 ans. Quand j'étais petite, on me surnommait cuisse de poulet. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé faire une telle carrière. J'ai tellement de gratitude pour ce sport qui a changé ma vie. J'ai donné tout ce que j'avais à la course et pour la première fois, Je ne suis pas sûr d'avoir encore quelque chose à donner, a déclaré sur Instagram la spécialiste des 200 et 400 mètres, septuple championne olympique et 13 fois championne du monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les forces armées maliennes sont accusées d'avoir commis des exactions contre des populations civiles à Moura avec l'appui de partenaires russes. Au micro de Modibo Dembélé, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, répond à de telles allégations.
En tout cas, moi, je n'ai aucune indication dans ce sens. Je sais qu'il y a eu des allocations ici et là de personnes, d'individus. Je vous demande juste d'être assez prudent par rapport à ce type d'informations. Moura est une zone d'opération militaire. Je ne veux pas aller dans certains détails. Mais ce qui est certain, c'est que certaines de ces allégations peuvent venir même de terroristes déguisés. On a vu en Centrafrique des témoignages qui ont été achetés. Nous sommes dans un contexte aussi où nous nous rendons compte que depuis le départ annoncé de l'opération Barkhane, il y a quand même beaucoup d'activisme, d'action pour essayer de faire en sorte que l'armée ne puisse pas continuer à faire le travail remarquable qui est en cours maintenant et qui a donné des résultats. Près de 80 000 personnes ont pu être autorisées et ont pu regagner leur foyer, et des opérations militaires qui donnent des résultats. Nous voulons saluer et féliciter nos forces de défense et de sécurité pour cela. Quoique, ne nous laissons pas distraire. Il s'agit d'une campagne de dénigrement, une campagne pour démoraliser nos forces. Restons focalisés sur ce qui est important pour notre pays, assurer notre sécurité, soutenir nos forces de défense et de sécurité, et soutenir aussi l'ensemble des efforts qui sont déployés par le président de la transition et l'ensemble des autorités de la transition pour sécuriser les Maliens et les Maliens.
Cependant, Excellence, nous avons eu des témoignages de certaines populations de Moura qui accusent l'armée malienne d'exactions contre les populations civiles. Que répondez-vous à ces accusations?
Je n'ai pas connu de ce type de témoignages. Je sais que nous aussi, il y a une délégation ministérielle qui s'est rendue sur le terrain. Nous avons aussi reçu l'association Tabital Koulakou comme d'autres ressortissants de la localité. Qu'une allégation de cette nature n'a été portée à notre connaissance. Au contraire, les gens se sont montrés soulagés parce qu'il y a quand même des brimades, des violations, des violences qui sont exercées contre les populations. Il y a des impôts qui étaient imposés. Il y a un blocus qui était imposé à la population de Moura. Je tiens à rappeler que Moura est un sanctuaire. Les terroristes depuis des mois, et les populations sont aujourd'hui soulagées par cette intervention salutaire de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis de sécuriser cette zone et de permettre un retour à une vie normale. Bon, moi je ne suis pas plus impressionné par ce type d'allégations. Je crois qu'il y a une enquête de la justice militaire qui est en cours. Au lieu de commencer à donner des qualificatifs de massacre ou autre, il faut attendre qu'on ait les résultats de ces enquêtes qui nous édifieront sur ce qui s'est réellement passé. Mais nous pouvons vous dire que le mode opératoire qui est indiqué ne correspond pas à la façon de nos hommes d'intervenir sur le terrain. Je rappelle que nous sommes dans une lutte contre les terroristes. Autant le gouvernement que les forces de défense et de sécurité ont conscience que cette guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée qu'avec les populations.
C'était le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a remis hier sa démission et celle de son gouvernement au président Alassane Ouattara, qui a fait part de son intention de nommer un nouveau gouvernement plus resserré la semaine prochaine. M. Ouattara a indiqué à l'ouverture du Conseil des ministres qu'il souhaitait que le prochain gouvernement soit limité à une trentaine de ministres, contre 41 actuellement. Il devrait par ailleurs s'exprimer devant le Parlement ivoirien le 19 avril. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à Abidjan le politologue Sylvain Guessant de l'Institut de stratégie d'Abidjan.
Le moment est quand même opportun pour le président de la République. Il y a un projet de loi sur la table des députés pour ce qui est de la réforme des conditions d'éligibilité à la présidence. Et donc, le président, sachant que si ce projet de loi passe, il serait à la retraite politique, tout comme M. Bédié Gabo, essaie de prendre l'avance sur ses adversaires immédiats en rabattant les cartes. C'est également une question de se donner du temps, au moins 18-20 mois avant les élections locales à venir en octobre 2023 probablement, de sorte à pouvoir ressouder son équipe après ce remaniement-là. Oui, il y a la surprise, il y a la volonté de nommer des jeunes pour faire face à l'après-projet de loi et aussi la volonté de former une nouvelle équipe avant les élections locales à venir.
Quelles sont les chances de voir l'opposition ivoirienne figurer dans le nouveau cabinet qui prendra forme la semaine prochaine?
Les chances de l'opposition de figurer dans ce gouvernement, pour moi, sont vraiment minimes. Hein. Le secret marginal, peut-être 10% de chances. Je pense que le président a envie de nommer une équipe restreinte qui partage entièrement sa vision, qui puisse lui permettre de rabattre les cartes, de mettre tous ses officiers à l'épreuve, leur donner la visibilité, de sorte à ce que les électeurs puissent voir parmi tous ces lieutenants lequel est présidentiel, en vue de mieux préparer octobre 2025. Je pense que les chances de l'opposition de rejoindre cette équipe-là sont quand même minimes. Je pense que c'est 10% de chances.
Le président Ouattara parle d'une équipe resserrée et il dit qu'il a aussi impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. Est-ce que le Premier ministre Patrick Achi a-t-il des chances d'être reconduit?
Je pense que la reconduction de Patrick Achi, c'est 80% de chances à la primature, mais quand même 20% de chances pour le poste de vice-président. Le président étant le ressortissant du Nord, ce serait un peu mal perçu dans le marigot politique ivoirien que son vice-président soit un cadre du Nord. Enfin, s'il voulait vraiment nommer un vice-président. Donc, M. Patrick Achi pourrait être vice-président et un autre cadre du RHDP Premier ministre. Je pense que M. Patrick Achi a toutes les chances de faire partie du prochain gouvernement de l'exécutif ivoirien. 20% de chance à la vice-présidence et 80% de chance en tant que Premier ministre de la République Côte d'Ivoire.
Sylvain Guesson de l'Institut de stratégie d'Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Burundi, les inondations ont d'énormes conséquences pour les déplacés du camp de Kinyinya 2, situé à quelques kilomètres de Gatumba, dans le nord-ouest du pays. Comme pour les 2300 déplacés qui s'y trouvent, nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de Léa Nyabenda. En avril 2020, cette mère a tout perdu lorsque sa maison a été submergée par le lac Tanganyika, dont le niveau monte sur fond de dérèglement climatique. La suite avec Yakuba Ouedraogo.
Depuis 2 ans, Léa Nyabenda vit ici, dans ce camp de déplacés avec ses 10 enfants. Suite à la montée des eaux du lac Tanganyika, elle a dû fuir son domicile. Elle a tout perdu. Autrefois agricultrice dans les champs, aujourd'hui elle fait de la broderie pour essayer de gagner un peu d'argent.
La vie est misérable ici. L'hébergement et le manque de nourriture m'angoissent. Dormir dans un endroit pareil, alors qu'on avait une belle et grande maison. Je ne peux pas dire qu'on ait une bonne vie quand les enfants passent parfois une journée sans manger ou ne mangent qu'une fois par jour.
Léa est née à Gatumba. Elle a toujours vécu au bord du lac Tanganyika. Pour elle, cette situation n'était pas envisageable. Chaque année, pendant la saison des pluies, le lac montait, mais jamais proche de son terrain. Sa maison est à seulement quelques kilomètres du camp. Aujourd'hui, il ne reste plus rien.
Ma maison se trouvait ici, il y avait 4 chambres et 1 salon. Ici, on voit 2 des chambres détruites. Là-bas, c'était une chambre et là-bas, le salon.
Située sur une plaine fertile alimentée par la rivière Ruzizi, les habitants ont construit des maisons proches du lac sur une zone difficile. L'ONG Save the Children vient en aide aux familles déplacées et à celles qui ont choisi de rester sur place. Leur plus gros défi, les enfants qui représentent 65% des déplacés. souvent déscolarisés, ils sont contraints de travailler pour aider leur famille. Geoffrey Kirenga est de l'ONG Save the Children.
Children are getting involved in fishing.
Certains enfants se mettent à pêcher sans être encadrés et c'est dangereux parce qu'ils risquent de se blesser. Mais si on y ajoute les conditions de vie précaires des familles, les logements insalubres, les enfants sont aussi en proie à la pluie, au froid et à la malnutrition.
Les experts se divisent sur les causes qui expliqueraient la montée des eaux. Une crise cyclique, une intensification des pluies, le changement climatique, l'érosion ou encore le manque d'assainissement et la pollution. Albert Mbonerane, ancien ministre burundais de l'Environnement.
Quand je vois tous les déchets, je dirais, solides, tout qu'on jette dans ces rivières, après les rivières sont fâchées et ils n'ont pas quoi faire. Ils doivent envoyer ça dans l'océan du lac Tanganyika. Et si vous y allez vers 15 heures, vous allez voir que le lac est en train de vomir pour dire « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?»
La saison des pluies va bientôt débuter au Burundi. Et l'inquiétude règne. Cette année, la situation risque encore d'empirer pour les habitants de cette région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Depuis plus d'un mois, le président américain Joe Biden met en cause son homologue russe Vladimir Poutine en guerre contre l'Ukraine pour la hausse généralisée des prix aux États-Unis. Mais certains analystes ne partagent pas entièrement cet avis. Un reportage d'Anita Powell, relaté par Jacques Aristide.
Tout augmente partout dans le monde. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près de deux mois, du carburant aux engrais, en passant par la nourriture, les prix grimpent dans des pays éloignés du conflit, tels que le Maroc, le Brésil et l'Inde. Le président américain Joe Biden l'explique par le truchement de ce slogan, la hausse des prix de Poutine.
Je fais tout ce qui est en mon pouvoir par décret pour faire baisser les prix et faire face à la hausse des prix de Poutine. En fait, nous avons déjà fait des progrès depuis la collecte des données liées à l'inflation en mars. Le budget de votre famille, votre capacité de faire votre plein d'essence, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu'un dictateur déclare la guerre et commet un génocide à l'autre bout du monde.
Lors d'une visite dans l'Iowa mardi, le locataire de la Maison Blanche avait part d'une initiative qui a pour objectif d'étendre l'utilisation d'un mélange d'essence à base d'éthanol afin de rendre les prix du carburant plus abordables. Mais un tel mélange est susceptible d'être plus polluant. D'après l'ONU, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix des denrées alimentaires aux quatre coins du globe. Mais des économistes invoquent d'autres raisons également, telles que la hausse des prix des matières premières, la lutte inadéquate contre l'inflation et les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Pour certains analystes, Vladimir Poutine n'est pas l'unique coupable. E.J. Anthony est chercheur au think tank conservateur Heritage Foundation.
This happened long before Putin's invasion of Ukraine. So the administration went from saying there is no inflation to then saying, well, there's inflation.
Cela s'est produit bien avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Dans un premier temps, l'administration disait qu'il n'y avait pas d'inflation avant d'avouer qu'elle était transitoire. Ensuite, l'inflation a été reconnue comme un problème, mais elle était bonne. Aujourd'hui, nouveau scénario, l'inflation est mauvaise, mais ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de Poutine.
D'autres, en revanche, sont d'avis qu'une grande part de responsabilité doit être attribuée à Vladimir Poutine. William Rentsch, du Centre d'études stratégiques et internationales.
S'il n'y avait pas de guerre, je pense que les prix auraient atteint leur plus fort avant de commencer à baisser. Avec la guerre, oui, c'est une hausse des prix de Poutine. Je pense qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, il n'a pas déclenché la flambée des prix. Tout cela a commencé bien avant la guerre. Mais il a tout aggravé et il mérite qu'on lui en reporte la faute.
L'économie russe a également été durement touchée par les multiples sanctions imposées par les États-Unis et les alliés de l'OTAN.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Rosine Monezero. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute.